Moi, j'ai changé les musulmans au Qatar oriental. J'ai refusé totalement ce qui était
fait. Moi, j'ai fait des compagnies au Qatar. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. C'est jeudi 19 mai 2011, nous parlons des violences sexuelles. Dans son rapport 2010, publié au mois d'avril dernier, la Ligue des Zones Afriques pour la défense des droits des enfants, étudiants et élèves, les ADEL, indique que près de 68% des victimes des violences sexuelles prises en charge médicalement en République démocratique du Congo sont des enfants. Et ce rapport évoque notamment les violences sexuelles, les privations, les séquestrations, l'exploitation, l'esclavage sexuel qui prennent de l'ampleur dans les villes et campagnes, et dans les familles, dans les milieux de travail, scolaires et pénitentiaires. L'ONG dit avoir assuré un accompagnement psychosocial à 5231 victimes de violences sexuelles à travers le pays, dont 29% à Kinshasa et 28% pour province orientale, la plus vaste du pays située dans le nord-est. Elle estime par ailleurs que l'impunité dont jouissent les auteurs les encourage à récidiver. Une seule question pour cette émission, comment réagissez-vous face à cette situation et que proposez-vous pour lutter contre ce phénomène de violence sexuelle sur les mineurs? Nous recevons dans ce studio M. Gode Kayembe, secrétaire permanent adjoint du Conseil national de l'enfant et président de la ISADEL. Marie-Chantal Lumba, Titine Poutou, Érythée Filiatala sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngata, Pierrot et la mesure de la présence. Et des auditeurs, bienvenue à vous.
Le réveil avec Radio Okapi, c'est une session d'information en français, passée il y a en Kilouba, en Tukongo et en Lingala. C'est beaucoup de synthèse de la qualité africaine et internationale, la revue de la presse chinoise et du sport. De 5h à 9h, découvrez qui a fait quoi, à qui, quand, où, comment et pourquoi, avec la session d'information de la matinale de Radio Okapi. Lorsque les jeux se lèvent à 5h, Radio Okapi met le Congo à la une des saisons. La matinale de Radio Okapi, c'est de lundi à vendredi de 5h à 9h, heure de Kinshasa.
Bienvenue à tous, nous parlons violences sexuelles avec un accent particulier pour ces violences sexuelles qui touchent les mineurs. Vous êtes très nombreux à travers le pays à vouloir intervenir pour donner votre point de vue, contribuer par rapport à ces sujets. Ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation, appelez-nous au 081-869-69, mais vous avez aussi la possibilité de réagir par internet si vous nous écoutez sur www.radiocapi.net en nous envoyant un message électronique à l'adresse pa@radiocapi.net. Monsieur Joseph Bidekaïbe, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue au studio de Radio Capi.
Merci.
Vous êtes le secrétaire permanent adjoint du Conseil national de l'enfant et puis président de la ISADEL. Et nous avons introduit cette émission avec un rapport de la ISADEL par rapport à la situation des violences sexuelles dans le pays, mais avec un accent particulier aujourd'hui, l'angle qui touche les mineurs, 68%. Pourquoi ce pourcentage élevé des violences sur les mineurs?
Oui, comme vous le savez, la majorité de cas sont posés par les personnes proches de l'enfant. L'enfant, l'innocent, fait confiance à ceux qui sont dans les environs. Notamment les oncles, les cousins, les tontons, tous ceux qui sont autour de l'enfant, l'enfant fait confiance. Et ce qui fait que généralement, ils commencent par l'agression et ils sont posés des actes sexuels. Et nous avons constaté également que ces cas, ces familles souvent aussi aux enfants qui sont par exemple scolarisés, ils font confiance aux enseignants. Et parfois, ils intimident les enfants, ils arrivent à produire des actes. Et souvent, quand nous parlons, et nous disons aux parents, je veux être très attentif, parce que l'affaire du sexe n'a pas de limite. Et il y a même des enfants de 6 mois, de 5 mois, qui sont violés. Les enfants, puisque les parents sont naïfs, le parent croit aux cousins, aux neveux, aux oncles, aux tontons, qui sont proches de l'enfant. Cependant, ils en profitent. Les violeurs pour poser leurs actes. Voilà pourquoi il y a tous des cas de violences sexuelles enfin, par rapport aux statistiques que nous avons présentées en ce qui concerne cet enfant et le majeur.
Et quand on regarde la cartographie, on a beaucoup plus à un certain moment attribué les violences sexuelles dans les zones des conflits, comme à l'Est par exemple, où il y a des groupes armés. Mais de plus en plus, même sur les antennes de Radio Capi, on revient de plus en plus parler des cas de violences sexuelles dans les zones où il n'y a pas de conflits, c'est comme au Kassai occidental, au Kassai oriental, au Kamanga, dans le Bandoudou, ailleurs, là où il n'y a pas de conflits. Comment expliquer ce phénomène qui semble s'installer en tant que tel dans ces zones où il n'y a pas effectivement des conflits armés?
Avant, il y avait tous les cas de violences sexuelles. Mais, compte tenu de l'honneur de la personne, en de la famille, les gens étouffaient.
Mm-hmm.
Étouffaient tous les cas, ils s'arrangent à l'amiable. Avec le sida et l'avantage lié aux services qu'on proposait aux victimes, notamment la prise en charge médico-sanitaire, la prise en charge de la personne au niveau de la justice,
mm-hmm.
la prise en charge psychologique, toutes ces victimes ont commencé à se dévoiler. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez des informations. En même temps, la plupart des gens qui ont violé n'ont pas subi les sanctions appropriées. Bien que la loi existe, mais toutes ces personnes n'ont pas été sanctionnées comme prévu par la loi. Ce qui fait que les violeurs potentiels se sont organisés pour aussi violer.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de sanctions vis-à-vis de toutes les personnes qui ont violé précédemment.
Voilà. On vous garde en ligne, on va cheminer ensemble avec les auditeurs qui sont aussi dans leur milieu, qui peuvent contribuer pour nous dire ce qu'ils pensent qu'ils puissent être faits efficacement pour lutter contre ce phénomène. C'est Josué qui est à Iskiro, par exemple, et les autres, ils sont nombreux. Appelez-nous 081-890-69-69.
Parole aux auditeurs.
Josué, vous êtes à Iskiro en province orientale, bonjour. Josué, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, apparemment, Josué serait encore distrait sur sa ligne, ça nous permet de pouvoir revenir ici à Kinshasa, je crois bien, avec Mathieu. Mathieu, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, ça va, je voudrais juste intervenir sur le problème là, de l'histoire des multiples violences que nous connaissons sur la RDC.
Et on vous écoute, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait pour lutter efficacement contre cela?
Oui, les plus grands problèmes qui reviennent dans notre pays, c'est que les textes sont totalement théoriques et l'applicabilité des lois sont totalement à côté. Et maintenant, si on pourrait peut-être prendre les mesures normales, comme on les prend, comme les disciples du sexe, et on applique tout ça. Quand les gens se donnent là, c'est directement tentative de meurtre. Il faudrait peut-être commencer à privilégier, quand tu causes ces histoires-là, automatiquement, du coup, tu vas avoir peut-être la peine capitale. Mais c'est à ce moment-là qu'on va voir les histoires des droits de l'homme intervenir. Oh, droits de l'homme, droits de l'homme. Au moment où on commet les histoires-là, les droits de l'homme n'intervient pas. Moi, je ne sais pas. Quant à moi, on pourrait peut-être être au moment où vous avez de telles histoires, peine et capitale, et peut-être les taux pourraient diminuer les histoires des taux de.
Merci. Merci Mathieu. Vous êtes très clair ça. Vous pensez qu'il faudrait une application stricte des textes, hein, qui, les textes qui répriment les actes de violence sexuelle, et vous évoquez même la peine capitale, mais du moins vous avez peur que quand on va évoquer la peine capitale, il y aura aussi ces droits de l'homme qui vont se lever pour s'opposer à la peine capitale. Merci beaucoup de ce point de vue ici à Kinshasa où les auditeurs nous suivent à 103.5 MHz. Nous allons à Isiro. David est en ligne. Bonjour David. David, vous êtes en ligne, bonjour.
Ok, merci beaucoup. Comme proposition, ma première proposition est que le gouvernement puisse effectivement punir les responsables des violences. Parce que nous savons qu'il y a vraiment pas mal de complicités entre les gens qui sont censés vraiment diriger les victimes des violations, les gens qui sont censés.
David, on a des problèmes de ligne avec vous, c'est en train de se recouper, mais dis-moi, votre proposition, c'est la punition des responsables et des auteurs de violences sexuelles, mais vous dénoncez au moins une certaine complicité entre les bourreaux et ceux qui sont censés protéger les victimes des violences sexuelles. Mais malheureusement, la ligne téléphonique ne permet pas d'aller plus loin avec vous. Nous restons en province orientale avec Outsubi Kisangani. Bonjour Outsubi.
Bonjour, notre journaliste.
Vous avez suivi les auditeurs, Mathieu de Kinshasa pense qu'il fait une application stricte des textes, voire même la peine capitale hein, pour les auteurs de violences sexuelles. Et il y a David Bissureau qui revient aussi sur la punition, la répression d'une manière stricte. Qu'est-ce que vous pensez que puisse être fait pour protéger surtout les mineurs, les enfants qui sont exposés à ces violences sexuelles parce que l'émission est consacrée plus aujourd'hui aux enfants?
Oui, merci beaucoup pour la parole, M. Jean-Luc. Moi, je pense que le problème est très simple. Vous savez, je crois, depuis le domaine, s'il y a un problème qui ne se voit pas, il faut d'abord voir la base. Et si on parle des problèmes de violence sexuelle, il faudrait maintenant comprendre qu'est-ce que la base de toutes ces violences. Moi, je pense que la première origine ici, il faut d'abord que l'État puisse lutter contre le chômage. Vous savez, les mineurs aujourd'hui sont sacrifiés, justement, c'est parce que les parents n'ont pas de moyens. Alors, pour survivre, ils se donnent à n'importe quoi. La deuxième chose, il faut d'abord, moi je pense que le chef de l'État lui dit dans sa déclaration, il dit tolérance zéro. Jusqu'à présent, je pense que cette déclaration n'est pas encore mise en application. Il faut d'abord lutter contre l'impunité. Pour que, vous savez, dans la Bible dit, si quelqu'un commet un péché, il faut le reprendre, donc, devant tout le monde, pour que les autres aient quand même la peur, la crainte de revenir sur une séparation. Ici, c'est notre exemple, il y a vraiment l'intimité totale. Vous voyez, ce n'est pas mal quand je vois ici 20% de violences sexuelles dans la province orientale. Vraiment, ce n'est pas mal. Et vous comprendrez que la majorité de ces violeurs ici, ce sont les gens de l'ordre, les militaires, les policiers, ce sont eux qui sont presque majoritaires. Et pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'ils ne sont pas bien payés. Imaginez-vous pour les journalistes, un policier qui gagne au moins 20 000 francs congolais par mois, et c'est un monsieur ici, quand est-ce qu'il aura vraiment les moyens de se marier? Et la sexualité, vraiment, c'est tout à fait naturel. Mais pour ce qui se fait, il voit passer par un voie vraiment courte qui est en violence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que les gens soient payés pour protéger les mineurs. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà. Au tout dit, on a suivi, vous avez épinglé beaucoup de choses. D'abord, vous passez de la pauvreté expose beaucoup de jeunes filles aujourd'hui à être victimes de violences sexuelles. Vous avez parlé de l'application des tolérances zéro. Et aussi, il faut la lutte contre l'impunité. Merci beaucoup. Nous restons en province orientale. Je crois maintenant, David, de votre ligne s'est améliorée. David. David, vous êtes en ligne?
Secondement, je devrais dire ce que je pense que votre gouvernement est stagé des structures de.
Oui, ça n'a pas encore marché, ça ne s'est pas amélioré, David, désolé pour vous. Vous avez de bonnes idées, malheureusement, la ligne téléphonique ne nous a pas permis de pouvoir aller le plus loin. Nous allons prendre Jean-Claude qui nous appelle de Kamina au Katanga. Jean-Claude, bonjour.
Oh, bonjour. Moi, je voudrais intervenir comme ça. Le problème tellement qu'il est pénible en ce moment, c'est vraiment un fléau que nous traversons. Il est à considérer vraiment avec beaucoup d'attention. Moi, je voudrais dire ceci. La responsabilité est à partager. Mais commençons d'abord par le fils de sortie de ce fléau pour gagner un peu de temps.
Allez-y.
Moi, je trouve que le gouvernement, dans sa part, devrait intervenir à ce que tout le film du genre Karachika, de film nigérien, de film tanzanien, de film du genre El Diablo, que cela ne puisse pas entrer. Pourquoi je dis ça? Puisque c'est ce qui fait entrer la sexualité dans l'esprit des enfants à partir de la maison. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, une fille qui sort de chez lui en présence de ses parents, mal habillée, presque à moitié nue. Quel est l'esprit derrière cet habillement? N'est-ce pas un esprit de prostitution? Et d'ailleurs, communément, ils appellent ça du paix. Alors, quand ils vont trouver un jeune garçon sur la rue ou bien un papa qui est là, qui n'avait même pas une idée sur ça, et il passe là à moitié nue, vous voyez ce que ça fait? Donc, il y a une responsabilité du gouvernement d'interdire tout ce film du genre Karachika et autres que nous avions cité, que cela ne puisse pas entrer. Du côté des parents, comment expliquer qu'un parent qui se dit parent peut accepter d'acheter des films de ce genre, là qu'il y a des séquences sexuelles? Mais vous voyez, monsieur le journaliste.
Oui, Jean-Claude, s'il vous plaît.
Oui.
Mais est-ce que c'est pas un problème aussi de choix et de responsabilité? Parce que on peut commercialiser tous les films qui existent, mais on n'est pas obligé, dans la famille, par exemple, de regarder ces séries télévisées ni ces films. C'est un problème de choix des types d'éducation, de ce qu'on veut faire à la maison, ce qu'on veut montrer à ses enfants, n'est-ce pas?
Oh, monsieur le journaliste, imaginez-vous un problème de choix, mais quelles conséquences, Ce sont les conséquences que nous déplorons, puisque un enfant qui nourrit cet esprit dans sa maison propre, le film que le papa lui a procuré, il voit ça en présence de son papa, il sort, il va imiter, il s'habille très mal, à moitié nu, d'abord, quand nos mères faisaient coutume, et il passe sur la rue. Imaginez-vous les conséquences, c'est ce qui s'est fait. Alors, si nous voulons attaquer ce problème, allons tout droit au but, savoir les causes même qui fait que cela puisse être ce que ça est aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi je voudrais dire que les parents aussi soient rééduqués pour savoir quoi mettre à la maison, puisqu'ils sont aussi responsables. Un papa qui se fait sortir sa fille comme ça. Mmh. Vous voyez ce que ça fait. Mmh. Il y a aussi un problème.
Rapidement, Jean-Claude, pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Oui.
Ok, il y a aussi un problème de stupéfiant. On laisse vendre tout sur le marché. Alors, quand quelqu'un est déjà dans cet état excité, vous voyez les conséquences. Mmh. Donc, bref, pour gagner le temps, que l'État prenne en responsabilité ce qu'il doit faire, donc interdire toutes ces vilaines choses d'entrer au pays. Et que les parents soient, qu'il y ait une forte sensibilisation sur les parents, puisque maintenant c'est la délinquance parentale.
Merci.
Et alors, quand on va terminer ça, vous verrez, et éradiquer toutes les sociétés brassicoles et tabacicoles, puisque c'est aussi à la base. Mmh. Alors, si nous voulons traiter, imaginez-vous par exemple dans des pays.
Merci beaucoup, Jean-Claude, on ne sera pas plus loin. Vous avez quand même expliqué la responsabilité des parents, de l'État, sur la moralisation de la société. Merci. Nous terminons avec Marcel de Kananga avant de redonner la parole à notre invité, M. Joseph Claude KMB. Marcel, vous êtes en ligne, bonjour.
Merci, c'est Marcel. Je voulais vous dire ceci. Pour moi, ce n'est pas seulement la responsabilité des parents, certainement. La responsabilité directement au niveau de la famille. Le gouvernement, notre gouvernement, le gouvernement de notre pays, tout à fait irresponsable. Un papa qui a deux jeunes filles et ces jeunes filles-là ont besoin d'être à l'aise comme les amis, il n'a pas de moyens, la fille sort, il y a un garçon qui lui propose n'importe quoi, elle n'était presque même pas de son âge. Et même la justice là, on dit, la présumée justice qu'on dit qu'il y a, c'est la justice. La justice, la justice. Bon, on fait de cette justice du commerce. Quand on voit directement qu'il y a du viol, on n'a pas de paramètres de tenir compte, la date de naissance de l'enfant, il n'y a pas tout ça. On condamne tout simplement, on met les garçons en prison. Il y a beaucoup d'innocents qui sont en prison et qui ne sont pas violaires comme tels.
Voilà, merci Marcel. On a un problème de réseau hein, aujourd'hui, les auditeurs sont nombreux qui sont en train de tenter de nous joindre, on a des petites difficultés, mais continuez, hein, je pense bien que ça va aller, on pourra vous rappeler pour intervenir. Merci à tous ceux qui sont déjà passés, mais avec quelques difficultés, mais je pense bien que ça va aller. On va tout de suite juste donner la parole à notre invité pour commenter ce point de vue des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Joseph DKMB, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Ils ont relevé beaucoup de choses, hein, de l'impunité en passant par la responsabilité des parents, le respect des textes et toutes ces mesures qu'ils ont proposées au niveau du Conseil national de l'enfant, au niveau de la LISADEL. Comment vous classifiez les différentes interventions évoquées aussi par les auditeurs pour lutter efficacement contre ce phénomène?
Merci beaucoup pour la parole. Je tiens à remercier tous les auditeurs qui ont bien voulu intervenir dans leur point de vue et de leur respect. Et toutefois, je voudrais dire que d'abord je voulais répondre avec notre ami Mathieu lorsqu'il dit que lorsqu'on arrête les individus, on parle des droits de l'homme, mais lorsqu'ils violent, il n'y en a pas. Il n'y a pas ces droits de l'homme. Je voudrais expliquer que le droit de l'homme a des exigences. Mm-hmm. Nous, les Congolais, nous avons des difficultés. Nous embrassons une chose, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Le droit de l'homme a des exigences. Le respect et la mise en application des textes. Au Congo, nous disons que nous sommes en train d'entrer dans un processus démocratique, mais on ne comprend pas ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que dans des pays démocratiques de l'indémocratie, tu ne peux pas trouver quelqu'un avec une machine sur la rue qu'on qualifie Corona, ça n'existe pas. Si tu sors la machine, tu sors la machine sur la rue, on t'abat immédiatement. Si tu prends un couteau, on te tue immédiatement. Aux États-Unis, il y a la loi qui autorise la police à battre la personne qui est le plus dangereux. Tu es sur la route, tu es dans un véhicule, tu roules, la police t'arrête, tu refuses de tempérer là-bas. Tu es dans un véhicule aux États-Unis, je ne dis pas ailleurs. Tu sors une arme, on t'abat, on te tue. Tu es dangereux. Et le policier ne veut pas juger pour toi. Il dit qu'il faut que tu juges dangereux, il faut que tu es placé. Mais nous avons, dans ce pays-ci, l'État congolais. On dirait que ce n'est pas la loi existe. Les lois existent. C'est la mise en application. En principe, toutes ces personnes qui sont hors la loi, qui violent les femmes et les enfants, devraient se sanctionner sévèrement, présenter à la télévision. Comme on l'a fait avec des. C'est un grand monsieur, directeur général de l'EPNI, tout le monde l'a vu. On ne sait pas s'il a violé, mais soit on sait que c'est là qu'on doit sanctionner, on doit réprimer. On a réprimé, c'est dans ce pays-ci. Il se trouve que quelqu'un est soupçonné d'avoir violé une femme, ou soit qu'il a violé. La loi interdit à la presse de présenter la personne publique en attendant que la justice puisse se prononcer. Quand on sait d'avance, et notre justice, elle est corrompue. Notre justice ne peut pas arriver au résultat escompté qui va permettre aux journalistes de mener son action préventive normale. Pas lorsque quelqu'un a violé un enfant ou une femme, lorsqu'il y a clameur publique, lorsqu'il est présenté sur la place publique, c'est une sanction négative. Il va permettre peut-être aux autres violeurs de pouvoir se corriger.
Mais dans notre loi, nous parlons de la présomption d'innocence.
C'est ça qui tue, parce que nous embrassons la chose que nous ne comprenons pas. Si aux États-Unis, c'est la présomption d'innocence, c'est qui est appliquée en France, dans un pays civilisé, où tous les mécanismes peuvent être mis en place pour mener l'enquête, pour arriver à sanctionner les concernés, ce pays-là n'est pas si développé. Mais aux États-Unis, où on sait qu'il y a des bandits, il y a des criminels comme au Congo, on prend des dispositions pour être plus sévères avec toutes ces personnes, mais nous avons préféré choisir le moindre, la présomption d'innocence. C'est ça qui nous rend notre loi faible. C'est ça qui nous rend faible et qui encourage les violeurs à continuer à poser des actes parce qu'on suppose qu'il est innocent. En attendant,
il va manipuler la justice.
Il va manipuler la justice. En attendant, il y a des preuves. Même quand il y a des trucs qui ont des preuves, mais du code sanitaire. Mais les juges vont vous demander, vous dire qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Même un enfant de 6 ans violé, il y a le preuve du code sanitaire qui atteste que l'enfant a été violé. Mais les juges, il se dit qu'il hésite parce qu'il n'a pas de preuves matérielles. Il fallait que le juge soit présent au moment où on viole l'enfant pour le condamner. Donc, c'est son attitude. Lorsqu'il parle des droits de l'homme, dans ce pays, il y a des personnes qui n'ont pas compris. L'autorité doit jouer son rôle. Lorsque quelqu'un est dangereux, il doit se sanctionner sévèrement. Ça n'a rien à faire avec les droits de l'homme. C'est dit que dans le pays démocratique, on ne joue pas avec la loi. On ne joue pas avec la police. Dans le pays démocratique, c'est démocratique. Mais il n'y a que dans ce pays-ci, où les policiers, on se moque de la police, des policiers. Le policier arrête le violeur, il amène au niveau des causes des tribunaux. On le libère. Et le même violeur vient suivant le policier pour se moquer de la police. Et parce qu'en fait, c'est juste ce que je dis. Il y a un ami qui parle du chômage. Ce n'est pas le chômage. Tous les hommes à travers le monde sont attirés par le fait. Tout le monde entier. Mais il faut analyser, il faut des sanctions. Lorsque les sanctions se mettent en place, les gens ont peur de la sanction.
Alors,
ce n'est pas la morale. Ça n'a rien à faire avec la morale. C'est la sanction qui fait peur aux gens. Qui te disent, en le faisant, qu'est-ce que je veux devenir? Et c'est cela qui corrige la société. Mais ce n'est pas le chômage en soi. Parce que tu es commerce, tu vas commencer à coucher des enfants d'autrui. C'est pas ça. Mais en fait, est-ce qu'on peut dire que le directeur général de FMI était chômeur?
Non.
C'était pas chômeur. Donc, ce n'est pas le problème de temps, c'est le problème de moralité, le problème des sanctions. C'est la sanction qui va corriger la chose-là. Kassi et Katalanga, Bruno et Taouvira, Eric et Kisa Kinshasa. Je crois que les auditeurs reviennent sur le même point, la même chose, mais on va aussi revenir à vous après les trois auditeurs qui sont là pour avoir une idée du chemin parcouru dans l'application de la loi sur la violence sexuelle, parce que nous la possédons déjà depuis un bon bout de temps. Kassi, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kananga, au Kassai occidental, parce que vous avez suivi le cheminement de ce débat, de ce qu'il faut faire, par exemple, à Kananga, pour lutter efficacement contre ce cas de violence sexuelle, et surtout quand ça touche les mineurs.
Moi, personnellement, à ce sujet, je déplore une chose. L'application de la loi ici à Kananga reste à désirer. Il y a de ceux qui sont condamnés tout en étant innocents. Donc, il n'y a pas vraiment des investigations à ce qui concerne les violences sexuelles. Il suffit tout simplement qu'une fille dénonce, vous l'avez violée, et la justice prend en considération cela. Mais moi, je demanderais l'implication de l'État, puis mettre aussi beaucoup de moyens à la disposition de notre justice, afin de lutter, afin d'aider pour la justice, une mise en application de cette loi adéquate. Parce que vous remarquerez que l'application vraiment de la loi n'est pas bonne. Parce que la fille qui dénonce que moi j'ai été violée n'est pas un petit Dieu. Aujourd'hui, si c'est tout simplement qu'on vous accuse, moi vous avez violé et que la fille dénonce, vous êtes condamné.
Et en principe, en fait, il fallait avoir des cas plus concrets au niveau de la société, mais c'est ce que nous venons de lire avec l'invité. Et quand il y a une fille qui dénonce qu'elle a été violée, c'est qu'on met la main sur le présumé, comme on l'appelle, le présumé violeur, le temps qu'on puisse mener des enquêtes, des investigations, vous condamnez. Mais s'il s'avère après les enquêtes que vous n'avez pas été auteur, vous n'avez pas causé l'acte, on va vous condamner directement comme ça sans qu'il y ait des investigations. Merci, Pasti, vous êtes à Kananga. Ouvrir à Bruno est en ligne. Bonjour Bruno.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Bruno.
Oui, je suis d'accord avec ce que votre invité a dit, mais pas totalement très d'accord, parce qu'il a évoqué là le problème de la pauvreté. Ce n'est pas vraiment la pauvreté qui pousse l'homme ou la femme à faire à connaître la sexualité. La sexualité, c'est d'abord un besoin. Et quand on peut être riche ou pauvre, il est toujours passionné à violer. Mais le grand problème, c'est pas M. le journaliste. Je pense que tout repose sur la politique. Si la politique ne marche pas, la justice aussi ne peut pas marcher. Ce n'est pas pour dire que la justice, même tout repose sur la politique, si la politique ne marche pas, la justice aussi ne peut pas marcher, M. le journaliste. Là aussi, le problème de coutume. Vous savez, ici au Congo, soit ici à l'Afrique, on a peur de dévoiler certains actes contenus de certains critères familiaux. Moi, je pense qu'il faut la prise de conscience au sein du peuple congolais, que le peuple dévoile, que le peuple dénonce ce qui se passe pour conserver la coutume. Je crois que la coutume doit être remplacée par la prise de conscience. C'est ce que j'avais à intervenir.
Merci, Bruno. Pour aider Bruno, l'invité n'a pas dit que c'est la pauvreté qui pousse, mais le premier auditeur qui a évoqué la pauvreté, pour lui, il pensait qu'il était sur beaucoup de familles, les parents sont pauvres, ils ne sont plus à mesure d'encadrer leurs enfants, ce qui fait que les enfants sont exposés quand ils sortent, ils n'ont pas assez de moyens, mais même les mineurs peuvent être exposés à la sexualité par manque de moyens. Voilà un peu le contexte dans lequel on a pu évoquer le problème de la pauvreté. Nous rentrons ici à Kinshasa avec Eric, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes en ligne, Eric. Plusieurs cas de violences sexuelles aussi sur mineurs, hein, on en parle à Kinshasa, on voit des fois à la télé, on en parle. Et vous pensez que ce qui est fait sur le terrain est plus efficace pour lutter contre ce phénomène, Eric?
Pas tout à fait, surtout au niveau de la justice congolaise. Et je préfère que on avait remarqué une fille qui a fait le passé, elle est bien habillée. Et bien habillé, et les gars qui s'est approché à cette fille-là, et ils ont causé tout ça. Et là, demandé à cette fille-là quel âge vous pouvez être. La fille a dit que non, je suis pas mineur, je suis adulte. et directement, on a supposé que la fille a accepté la violence de n'importe quel sujet. Et alors, on dit à cette fille-là le sujet d'amour, et la fille a accepté. Et depuis cette évolution, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, les parents de la fille ont constaté que la fille commence à devenir de plus en plus petite et il commence à sortir n'importe quoi. Ils ont saisi la justice pour que la fille était encore mineure. Et au niveau de la justice, là, on a fait des gaillards, les gaillards qui sont. Alors, monsieur le journaliste, dans cette salle-là, si vous remarquez bien, c'est comme ici, il n'y a pas de question de terrain, il n'y a pas de terrain qui sont là, il n'y a pas aussi la bonne justice. Parce que la fausse réforme de la fille, parce que la fille avait dit que non, il n'est pas mineur, et à ce moment-là, je dirais que la fausse souvent, c'est comme au mineur eux-mêmes. Surtout ça, c'est au mineur eux-mêmes, parce qu'il se trompe. Il se trompe. C'est tout ça.
Merci beaucoup, notre ami Eric de Kinshasa. D'ailleurs, c'est pas seulement ici, cela est arrivé récemment en France. Vous vous rappellerez l'histoire d'une jeune Marocaine avec les joueurs de football de l'équipe de France comme Franck Ribéry, Karim Benzema. Le fait que la fille ait dit au footballeur que non, voilà, je suis majeur, et pourtant elle était mineure, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Mais c'est au niveau de la justice de savoir comment est-ce qu'on peut régler cela. Nous avons une dame à Lubumbashi, ça fait plaisir d'avoir une dame sur les antennes, hein, quand on parle aussi des violences sexuelles faites à la jeune fille. Mais c'est vraiment important d'en avoir, hein, pour votre point de vue. Il est très important, oui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Lubumbashi, Katanga. Vous avez suivi les hommes, oui, qui ont commenté de leur manière à ce sujet. Vous, en tant que femme, que pensez-vous qui puisse se passer pour mettre fin à ce phénomène de violence sexuelle, surtout quand ça touche les enfants, comme on l'a vu depuis l'introduction de cette émission?
Oui, tel que vous l'avez dit, ça fait vraiment mal. Hein. Et je parlerai pas seulement en tant que femme, mais aussi en tant que mère.
Mm-hmm.
Moi, je pense que les parents, en premier, devraient faire un vigoureux effort pour parler à leurs enfants de sexualité. Et ce ne serait pas seulement les mères, mais aussi les pères. Donc, les deux parents devraient parler de sexualité aux jeunes enfants. Et cela compte tenu de leur âge. Par exemple, avec ma fille de 2 ans, je ne vais pas lui dire hein, certaines choses qu'elle ne comprendrait pas. Je vais peut-être lui dire si quelqu'un, qui que ce soit un tonton, que ce soit un voisin, que ce soit qui touche ses parties génitales, tu lui dis, je vais t'en cuiser, ou tu cries, ou tu chies. Immédiatement, l'enfant, vous sentez que l'enfant tient vraiment à cœur cela. Et ma fille, par exemple, elle n'accepte même pas de se laver ou de se déshabiller quand il y a une autre personne que moi ou ma soeur avec qui je vis. Donc, quand on essaie d'inculquer de telle manière aux enfants, dès leur bas âge, l'enfant comprend quand même que, même si peut-être, à moins qu'il y ait beaucoup de violeurs, mais quand il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un de proche, l'enfant peut facilement se défendre. Enfin, je l'entends qu'il entend dire « je vais accuser » ou « je vais crier ». Il a quand même une certaine réticence. Moi, je pense qu'on peut faire ça.
Voilà. Merci beaucoup, madame. Ce qu'il faut faire aussi, c'est l'éducation, parler de la sécurité en famille, qui est important aussi pour le fils que le garçon, parce que les violeurs, ce sont des garçons. Il faudrait aussi, il faut aussi revenir sur les garçons pour leur parler de leurs responsabilités aussi. Mais si je peux vous retenir encore une minute théorique, vous êtes encore là?
Oui, je crois.
Et vous pensez, comme les éditeurs qui ont évoqué ce phénomène d'habillement aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cela a de l'influence sur ce comportement des hommes qui violent, par exemple?
Oui, je le crois bien. C'est vrai, la moralité est vraiment trop basse. Nous, les femmes, si nous nous habillons d'une manière digne, je pense que ça peut aussi réprimer les violeurs. Si une femme s'habille vraiment mal, et cet habillement-là, tout le monde voit que c'est mal, elle est vraiment mal habillée. Quelqu'un peut facilement s'approcher d'elle, l'attirer, ou faire ceci, cela, et en fin de compte, beaucoup de violeurs disent quoi? Elle était mal habillée. Et alors, moi, je ne savais pas me retenir. C'est pour ça que je l'ai violée. Donc, si, quelque part, les femmes s'habillaient aussi bien, bien sûr, l'habillement est différent d'une personne à une autre, mais quelque chose qui est quand même acceptable, ça ferait quelque chose.
Merci. Merci beaucoup, madame. Vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. À Beni, c'est Gaëtan qui est en ligne. Bonjour, Gaëtan.
Oui, bonjour.
On sait que la dimension de ce problème des viols, ça va tout de temps d'un milieu à l'autre. Hein. Quand on est à l'ouest, on pense plus à ce problème d'habillement, à ce problème de gens qui sont proches des victimes. Mais quand on est, par exemple, dans une zone de l'Est, ça, on a affaire à des bandes de criminels, des hommes armés. Entre les deux, vous qui vivez un autre contexte que celui, par exemple, qui est à l'ouest, qu'est-ce qui peut être fait efficacement pour protéger les jeunes contre les violences sexuelles à Béni?
Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que le taux, comme vous venez de le dire, des violences sexuelles sont vraiment tellement élevés au niveau de l'Est. Alors, il y a des organisations qui défendent ceux là qui sont violés. Mais moi, je suis proposé, parce que ce n'est pas congolais. On ne peut pas insérer ce programme-là dans l'éducation. On ne peut pas faire toute une structure. Il faudrait plutôt insérer ce programme-là dans l'éducation, en commençant par l'école primaire, même dans les églises. Il faudrait que cette culture-là puisse vraiment être cultivée dans tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons les conséquences, mais les causes. C'est-à-dire, quand les gens sont informés à partir de l'école, des églises, le taux va diminuer. Mais si nous allons nous mettre seulement à réprimer un peu de ce qui se fait, sans pour autant préalablement que les gens puissent comprendre comment éviter, et surtout que la sensibilisation commence d'abord dans la famille, dans les villes et dans les écoles, partout. Il y a des parents de chaque fois, chaque semaine. Il faut bien essayer ce programme-là, ça fera en sorte que le mouvement de violence ne soit pas diminué.
Merci Gaëtan. Nous allons terminer avec Deli de Kinshasa pour donner la parole à notre invité. Deli, bonjour.
Bonjour.
Et notre ami Gaëtan de Béni a ajouté une dimension par rapport à la sensibilisation, l'intégration même de l'effet de viol dans l'éducation. Montrer déjà aux gens dès le bas âge qu'ils sachent qu'il y a le violence sexuelle de toutes les façons, c'est des méfaits. Et pensez-vous qu'avec cette dimension, ça peut aider à lutter efficacement, bien sûr, en mettant à côté aussi ensemble le programme de la lutte contre l'impunité, tout ce qui a été évoqué avant la sensibilisation?
Ici, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que vous devez savoir que l'éducation, c'est la première chose que nous devons utiliser pour que nous puissions nous débarrasser de cette situation. Là où je ne suis pas d'accord avec l'autre auditeur qui parlait de moyens, parce que les gens ne sont pas payés, parce qu'ils ne travaillent pas, c'est ainsi qu'ils sont en train de commettre un viol, un policier, on paye 20 000, c'est la raison qui fait qu'ils puissent violer. Non, je ne pense pas que c'est ça. Parce que les viols, ça se passe partout. Même au milieu du service, on viole les gens. Notre invité nous a parlé du traité général de l'FMI. Alors, est-ce que c'est par manque de moyens ou bien c'est pour nous? Je pense que nous ne devons pas transporter les problèmes. Les problèmes, nous devons bien étudier pour trouver des solutions. Pour moi, la solution, c'est d'abord les autres qui viennent de parler, l'éducation de base. L'éducation de base. Donc, nous devons continuer à éduquer bien nos enfants. Parce que nous, souvent, nous voulons toujours sur notre responsabilité en disant non, l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela, parce que nous ne voulons pas éduquer nos enfants. Nous devons prendre notre responsabilité, qu'ils aient des moyens, qu'ils n'aient pas des moyens, parce que nous savons qu'il y a des familles où les parents n'ont pas des moyens, mais qui sont à mesure de bien instruire, de bien éduquer leurs enfants et qui ne font pas des bêtises en cours de route. Donc, le grand problème, c'est l'éducation. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec les idées quand ils parlent de la présomption d'innocence. Cette voie que nous avons choisie, que nous avons embrassée, je pense que ça ne favorise pas le bon mœurs de notre pays. Donc, je pense qu'il faut un peu de dose, une très bonne éducation, si je peux appeler ainsi. Ça va nous arranger, parce que nous avons vu avec Laurent Désiré, quand il est entré ici, un receveur qui était dehors, on le frappait directement et ça arrangeait les choses.
Voilà,
aujourd'hui, on parle là, l'idée des droits humains, tout qu'on sort, et cela ne favorise pas que nous puissions vraiment avancer.
Merci beaucoup.
D'abord, réguler un peu. Merci. Avant d'embrasser ce droit de l'homme et tout ça.
Merci Denise. Quand on parle de droit de l'homme, cela ne veut pas dire laisser aller non plus. Hein. C'est ce que beaucoup de gens confondent. Merci beaucoup. Vous parlez de l'éducation positive, si vous voudriez utiliser peut-être le terme. Merci. Alors, nous allons revenir à notre invité tout de suite pour commenter ces sujets-là, ce que les auditeurs ont dit et aussi quelques autres préoccupations que nous avons par rapport aux méthodes efficaces de lutte contre les violences sexuelles.
Parole aux auditeurs organise une série d'émissions sur les antipuissants provinciales. Chaque mercredi, à partir de la semaine du 9 mai 2011, l'émission Parole aux auditeurs se focalisera sur une province. Nous allons consacrer l'exclusivité des interventions aux auditeurs habitant la province concernée. Quel bilan faites-vous de vos institutions provinciales? Parole aux auditeurs, prenez la parole et nous vous écoutons.
Et prenez déjà rendez-vous le mercredi prochain, ça sera le 25 mai. La province de Bandundu sera à l'honneur les bilans des institutions provinciales dans le Bandundu. Prenez déjà rendez-vous, vous qui habitez la province de Bandundu. Nous revenons dans Parole aux auditeurs sur les problèmes de violence sexuelle sur les mineurs. On revient à vous, monsieur Joseph Godet, KMB. Vous avez suivi les auditeurs, ils se dégagent quand même une autre dimension qu'ils ont ajoutée au-delà de l'application des textes, les problèmes de l'éducation, de la sensibilisation. Un auditeur est allé même jusqu'à évoquer les églises, la religion, ce que cela peut avoir comme des influences, parce qu'il faut aussi agir en amont, ça peut être plus bénéfique aussi. Mais la deuxième question que je veux vous poser pour combiner tout cela, c'est par rapport à l'indemnisation des victimes. Au niveau de la justice, quand il s'agit d'un militaire ou d'un policier, par exemple, on dit qu'il est condamné à payer, ou soit c'est l'État qui est condamné à payer en son nom, 100 000 francs congolais, 1 million de francs congolais, qu'est-ce que c'est efficace, est-ce que cet argent est versé pour que ça encourage les autres victimes à pouvoir saisir la justice, ou soit on sait que c'est l'État qui va payer, mais l'État ne payera pas. Et les deux dimensions, comment on peut avancer avec ça?
Permettez-moi d'abord de remercier Mme Ruth de Bombachi, lorsqu'elle dit que l'IA s'appuie, que si quelqu'un touche sa partie inférieure, il faut l'énoncer. C'est la meilleure éducation. Parce que la plupart d'enfants qui sont violés, c'est parce qu'ils ignorent ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Et l'enfant de 3 ans, l'enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, le violeur ne commence pas par la violence sexuelle. Il commence par l'attouchement. Il le fait juste à le violer avec les doigts. Et enfin, il introduit le pays. Je la félicite. Et cette pratique doit être connue par tous les parents. Ils doivent dire à leurs enfants, quand quelqu'un qui pose sa partie inférieure, il faut tout de suite les lancer. Parce que les enfants ne savent pas là où ils l'amènent. C'est très, très intéressant. Pour ceux qui parlent de, comme Gaëtan, comme Eric, et Delis qui parlent de l'éducation, je suis parfaitement d'accord avec eux. Je suis parfaitement d'accord avec eux pour ce qui est de l'éducation. Et ça doit se passer au niveau de la famille, au niveau de l'église. On doit dire aux parents qu'ils doivent dire à leurs enfants. Les enfants, il ne faut pas commencer à se compliquer qu'ils ne comprennent pas. Il faut commencer par le fait qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent être utilisés. Et dire à l'enfant, quand il dit que c'est la partie inférieure, c'est une éducation qu'on a à l'enfant. Et ça va permettre à ce que l'enfant prenne disposition. Quand on dit à la société, lorsque vous trouvez un enfant en train de parler avec une grande personne, vous suspectez cette personne, il faut que la population s'implique dans la lutte contre les violences sexuelles. Il faut que ce soit une affaire de la communauté, non pas une affaire des individus. Donc, ce n'est pas une affaire des associations des droits de l'homme, c'est une affaire de la communauté qui lutte contre les violences sexuelles. Toi, parent, lorsque tu passes sur la route, tu vois une grande personne en train de s'entretenir avec un enfant de manière suspecte, qu'est-ce que tu fais? Tu passes. Il a mis ta part que son enfant était violé. Tu peux sauver un enfant qui est en voie d'être violé. En lui disant, papa, qu'est-ce que tu veux dire à l'enfant? À l'enfant, qu'est-ce que tu te racontes? Et lui-même, la personne peut avoir honte et puis peut fuir. Mais parce que vous êtes différent. La société, on a banalisé. La société congolaise est indifférente. Et cette indifférence qui fait que beaucoup d'enfants soient violés en public. Même à 18 heures, j'ai connu ça ici à Kalam, plutôt à Nguilingui. À 18h30, une fille violée dans un camion. Quand elle pleure, il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas ton pied, c'est sa femme. Sa femme, à 18h30, les gens passent sur la route dans un vieux camion. Ils sont venus dans notre clinique, ils sont pleins à 18h30, parce que les gens passaient, croyant que c'était sa femme. Et pourtant, les gens doivent s'intéresser à ce qui arrive aux autres. Et dans ce pays, ils ne s'intéressent pas. Ce que nous voulons, c'est que la population se mette debout. Lorsque vous voyez une position suspecte, une grande personne, un enfant, il se parle, vous devez savoir de quoi il parle. Ça peut limiter le dégât. Vous pouvez sauver les personnes qui sont en voie d'être violées. J'ai notre ami Bruno, il parle de la politique. Je personnellement, au niveau de la Ligue, le considérons parce que je suis en même temps secrétaire permanent du Conseil de l'enfant. Je travaille avec l'État. Je travaille dans le monde associatif. Je suis au milieu. Je dis que la politique a fait son travail. La politique a produit la loi qui réprime les violences sexuelles. L'affaire de la politique est terminée. Maintenant, c'est la justice qui va faire son travail. Si la justice ne fait pas son travail, c'est pas la politique. Qui est le magistrat qui peut accepter que son enfant de 3 ans, de 5 mois, soit violé et qu'on libère le violeur? Qui est le magistrat qui va accepter que sa nièce, sa cousine, de 3 mois, de 5 mois, soit violée, qu'il puisse libérer le violeur? Parce qu'il y a un problème de moralité, de conscience collective. Il y a un problème de moralité, un problème d'éthique qui se pose. Ça n'a rien à faire avec l'argent qu'on paye au magistrat. Ça n'a rien à faire avec l'argent qu'on leur paye. C'est le problème de moralité d'éthique. On ne peut pas comprendre que quelqu'un soit appelé magistrat, qu'il puisse se faire corrompre pour le cas d'une femme et d'un enfant violé. Un enfant de 3 ans, 7 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans violé. Le profit, c'est de volonté de l'enfant stoppé. Le magistrat s'est content d'avoir de l'argent et libérer l'auteur de violences sexuelles. Ça, c'est trop grave.
Ça veut dire qu'il faut maintenant, si on peut dire, que la punition commence aussi chez les magistrats.
Alors, l'autre démarche au niveau de la Lisadelle. Le 15, nous devons présenter l'état de lieu des dossiers accompagnés au niveau de la justice.
C'est le 15 juin alors.
Le 15 juin, nous devons présenter au public l'état de dossiers des violences sexuelles accompagnés au niveau de la justice. Sur l'étendue de la ville de Kinshasa. C'est un des lieux où nous allons nous rendre compte qu'il y a des dossiers pour lesquels le magistrat, au lieu de condamner la personne sur la peine prévue par la loi, de 5 ans, le magistrat condamne, ou bien le juge condamne l'infortuné de 3 mois, 6 mois, 9 mois. Nous demandons où il trouve ces années. Parfois, il y a des preuves qui sont réunies. La personne va se condamner. Le juge, lui donne la liberté. Ou la liberté provisoire abusive, parce qu'il a de la caution. Et nous disons que maintenant, nous sommes en train de préparer le dossier pour présenter aux autorités judiciaires, pour obtenir des sanctions vis-à-vis de magistrats qui n'appliquent pas la loi. On ne doit plus se plaindre, cette fois-ci, notre regard est tourné vers le magistrat qui n'applique pas la loi, pour voir comment l'autorité, c'est à ce moment-là que nous allons juger la crédibilité du pouvoir public.
Voilà. Nous avons les deux derniers du différent, John de Kinshasa et Manix qui est en Bouzmaï, qui sont en ligne. Je crois bien que vous allez avoir la parole, mais on reviendra dans la conclusion pour réagir aussi par rapport à cette préoccupation sur l'indemnisation. Un peu rapidement, nous avons John, vous êtes en ligne, bonjour. Vous avez suivi, on tente déjà vers la fin de l'émission, là vous n'avez qu'une minute hein, pour donner votre contribution par rapport à ce dossier.
Ma préoccupation, il y avait des mesures prises par la ville contre les mineurs de circuler pendant les heures tardives. Où en sommes-nous?
Malheureusement,
parce que je trouve que ces mesures-là avaient des répercussions. Et on avait vu que les enfants ne pouvaient plus commencer à respecter au moins. On avait pris des mineurs dans des heures tardives. Mais je trouve que la complicité de l'autorité facilite aussi facilite aussi la violence parce que les jeunes sont dans des milieux avec les stages et la coupure d'électricité que nous connaissons. Les violeurs ont la facilité de s'accaparer des jeunes dans des coins parce qu'il y a obscurité. Donc la police et les autorités, l'autorité de la ville doit au moins avoir les regards sur ces mesures-là que nous trouvons, nous avions salué et actuellement nous voyons que ça disparaît comme une traînée de poudre. Merci, c'était ça ma préoccupation.
Merci beaucoup John. D'ailleurs, on a fait une émission en parole aux électeurs sur ces mesures qui, à ma connaissance, sont restées presque lettres mortes. Nous terminons avec Manix qui est en Bouzmaï. Bonjour Manix. Manix, vous êtes en Bouzmaï. Bonjour. Manix, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Manix. Et quelle est votre préoccupation?
Manix, depuis Bouzmaï, je voulais demander ceci. Pourquoi les gens qui ont porté les droits de l'homme pour les violences sexuelles. Ils condamnent toujours les hommes parce que tous les jours aussi, nous voyons des femmes qui sont directement pour suivre les hommes derrière et après on arrête les hommes. Alors, j'aimerais encore savoir pourquoi les hommes qui nous ont amené le problème là des droits de l'homme pour la sexualité. Pourquoi est là tous les jours ici? Ils sont toujours à côté de l'université pour suivre nos grands-pères qui sont à l'université pour qu'ils soient leurs femmes. Alors, quelles mesures pourriez-vous prendre pour remettre vraiment cette chose à sa place.
Merci. Merci beaucoup, Manix. Je me rappelle d'ailleurs quand nous avions fait l'émission sur les violences sexuelles, Manix est intervenu en retard. C'est un jeune élève qui est à Mbujimayi. Malheureusement, cette fois-là, il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer aujourd'hui. On vous a fait les antennes. Merci beaucoup, on vous encourage. Vous êtes encore à l'école, je crois bien en deuxième ou troisième secondaire. Manix, merci beaucoup d'être intervenu. Votre question, vous l'aviez posée d'ailleurs la fois passée. C'est dans le sens où on accuse plus les hommes, mais les femmes, je veux parler des femmes qui aussi violent des hommes. Et la fois passée, il avait demandé par rapport à l'âge, vous trouvez une maman de 45 ans, 50 ans qui héberge un jeune de 16 ans, 15 ans, pourquoi on n'en parle pas tellement. Merci beaucoup pour ce point de vue. On revient à vous, monsieur Joseph Boudé-Kayembe, pour conclure cette émission. Nous avions une préoccupation par rapport à l'indemnisation des victimes et les garanties qui peuvent avoir. Donne de Kinshasa revient sur cette mesure d'interdiction de situation des mineurs. Malheureusement, cela est resté lettre morte. On termine avec Manix par rapport à l'inversion, les femmes adultes et les jeunes garçons.
Oui, monsieur John Kinshasa, je tiens à te remercier pour que tu es attentif. L'autorité prend la décision d'interdire la circulation des enfants en termes de prévention pour que les enfants ne tombent pas dans le piège des violeurs. L'autorité a pris la décision. La mise en œuvre, c'est la police. La mise en œuvre de cette position, c'est la police. Ce n'est pas le gouverneur qui doit descendre à la base. Et c'est ça le problème au Congo. L'autorité fait sa part. Chacun, nous sommes dans une chaîne. Chacun doit jouer son rôle. L'autorité a décidé. La police, quel est son rôle? Elle doit mettre en œuvre, mettre en application la décision de l'autorité.
Mais monsieur Jusqu'à un moment, l'autorité doit savoir si la mesure que j'ai prise, si elle s'exécute, elle ne s'exécute pas.
Non, vérifiez. Ici, s'il vous plaît. Et l'autorité n'a pas tellement cette décision. Il a autre chose à faire. Et chacun doit se mettre son rôle, c'est là où il se trouve. Donc, j'ai une organisation, je sais ce que chacun doit faire ce qu'il doit faire. Et on doit faire une évaluation par la suite. Mais je crois qu'il y a un problème dans notre pays, c'est au niveau de responsabilisation de chacun en ce qui concerne son rôle qu'il doit jouer dans la société. Donc, c'est que le chef de l'État est tenu de faire, de ratifier, de promulguer les lois. Si le Parlement ne lui a pas présenté les lois, il ne les crée pas. Il promulgue la loi. La loi, au lieu d'être appliquée par le magistrat, il faut demander au chef de l'État de faire la même chose. Ça n'a pas de sens. Il faut que chacun joue son rôle. Donc, le ministre, le gouverneur a pris la mesure, la mise en œuvre application de la police. J'aurais voulu que cette question soit posée aux autorités de la police de la ville de Kinshasa, qui répondent de ce qu'ils ont fait dans la mesure du gouverneur. Deuxièmement, je parle de cette demoiselle, c'est-à-dire la police, parce qu'elle est attentive, la loi dit l'enfant d'au moins de 18 ans, même s'il a consenti de faire le rapport sexuel avec toi, son consentement ne compte pas. C'est ce que dit la loi. La loi dit que le consentement de l'enfant ne compte pas parce que l'enfant il est innocent, il est naïf. Vous l'avez trompé dans sa conscience. Lorsqu'un enfant est hébergé par une grande personne, une maman, qui héberge un enfant de 15-16 ans, on doit l'arrêter. Il doit l'arrêter. On ne demande même pas l'avis de l'enfant. On l'arrête. La police voit ça, on l'arrête. Il doit interpeller. Si la police ne fait pas son travail, aux États-Unis, lorsqu'on se trouve en train de causer avec un enfant, on se rend compte que c'est en train de baratiner l'enfant. On pose la question à l'enfant. Qu'est-ce qu'il te dit? Il est en train de me baratiner. On t'arrête, tu es en prison pour 5 ans. C'est juste de baratiner l'enfant. Mais vous trouvez le policier, il passe,
ils trouvent que cet enfant est en danger. C'est un enfant qui est en danger. Mais la police ne s'intéresse pas. Il ne te rappelle pas le concerné. Il faut que cette idée arrive, soit mise à la tête de la police congolaise. Comme il y a de la population.
L'important, c'est
de
voilà.
Tous les cas de victimes de violences sexuelles, c'était les cas mineurs. Mais tous les cas que nous connaissons, les cas, n'ont jamais été indemnisés. Il y a seulement un seul cas qui a été indemnisé, c'est le cas de la fille qui a été violée par Evolo. Parce que nous avons fait une forte pression sur le ministre de la Justice. Et qu'il a obligé les volocaux de pouvoir payer. En dehors de ce cas, il n'y a pas d'autre. Voilà pourquoi la communauté internationale est en train de se mobiliser pour réunir les fonds afin d'indemniser tous les violents, toutes les femmes victimes de violences sexuelles. Je vois que si cette année c'est pas fait, l'année prochaine, toutes les victimes de violences sexuelles seront indemnisées.
Et dans 30 secondes pour la conclusion.
je reviens à dire que je fais appel au pouvoir public, à l'autorité judiciaire. Je parle de la justice qui doit pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir sanctionner tous les magistrats qui continuent à se complaire dans la mise en application de la loi sur la violence sexuelle. Je fais appel aux parents de pouvoir sensibiliser leurs enfants au niveau de la maison pour que chaque parent comprenne que le violeur va commencer par l'attouchement et il va aboutir aux violences sexuelles. Je dis aux parents d'éviter que les garçons approchent leurs enfants. D'éviter qu'il y ait des situations compromettantes entre les garçons et les filles. En même temps, je fais appel prétend en direction de tous les responsables de l'éducation et de pouvoir s'attacher à ce que la protection de l'enfant soit collective au niveau de la société.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph Godet-Kayembe. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes secrétaire permanent adjoint du Conseil national de l'enfant et président de la LISADEL. C'est par là que nous terminons cette émission. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Vous savez que le 18 mai dernier, le monde a célébré la Journée internationale des musées instituée par l'UNESCO depuis 1977. En RDC, l'Institut des musées nationaux fait face à plusieurs défis. Il s'agit notamment de rendre son patrimoine accessible au grand public et de viabiliser ses infrastructures en province. Une seule question, que faire pour valoriser les musées en RDC? On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe. Au revoir.